Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous n'avez pas eu besoin de devenir éditeur pour avoir voix au chapitre. La télévision vous a permis de faire bien des cartons. Vous en ajoutez un aujourd'hui avec un spectacle qui déménage. Bonjour Patrice Lafont.
Oh là là, c'est du pessisme alors franchement.
Je parle d'un spectacle qui s'appelle Dernier carton.
C'est le Proust de notre siècle.
Oui, franchement. N'exagérons rien, je suis à la recherche d'un temps perdu par d'autres.
Voilà. je l'ai vendu celle-là.
Ouais, très bien. Alors, vous êtes à l'affiche du Théâtre des Gymnases les lundis, mardis, mercredis avec Dany Carton, on en parlera tout à l'heure. Un rôle tout à fait inattendu pour vous, mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter, et Dieu sait si vous avez un parcours, à travers des dates clés.
Vu à mon âge, oui, effectivement, j'ai un parcours, ça
alors,
c'est sûr.
On va commencer par une date qui ne vous concerne pas directement, mais qui est une date familiale, c'est le 14 octobre 1969. C'est la première fois qu'un Lafont est apparu à la télévision, et c'était votre papa.
C'est un livre qui est à la fois un livre d'espionnage et un livre d'aventure maritime.
Robert Lafont qui parle du succès de Papillon, et l'homme discret qu'il était se retrouve pour la première fois devant le petit écran, dans une émission en toutes lettres.
Absolument, enfin, je ne m'en souviens pas vraiment pour le dire franchement, mais je me souviens de cette épopée Papillon, qui avait été refusée par tout le monde.
Oui.
Par tous les grands éditeurs, et mon père a eu ce qu'il avait souvent, le pif de dire « ça, je prends ». Et il ne l'a pas regretté.
Et il m'a raconté un jour qu'un samedi matin, il était chez lui, il trouve une enveloppe, il l'ouvre parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, c'était Papillon, il le dévore en 3 heures et il a dit oui.
Voilà.
C'était l'instinct d'un véritable éditeur.
Absolument, alors que cet instinct l'avait aussi trahi de temps en temps, puisqu'il a quand même refusé Sagan.
Oui. Mais enfin, on ne peut pas y avoir bon à tous les coups. Alors, votre père aimait les livres. Il a commencé, je crois, à Marseille en 41 avec Œdipe de Sophocle.
Absolument.
Et il est devenu éditeur en suivant le conseil de Guy Scheller. Et il devait au départ hésiter entre la production cinématographique et l'édition.
Oui, c'est vrai.
C'est fou, hein ?
C'est vrai.
Et finalement, vous auriez pu travailler dans l'édition, Patrice Lafont.
J'ai travaillé un peu avec lui. Mais c'était très difficile parce qu'il avait une telle personnalité, une telle puissance que je ne me sentais pas légitime. Voilà, donc il m'avait pris chez lui, mais je me cachais, je ne voulais pas qu'on dise le fils du patron et tout. Donc mon vrai copain, c'était le mec qui faisait les paquets dans un coin, donc j'étais absolument pas fait pour ça.
Alors que Anne, Isabelle et Laurent, frères et sœurs, eux ont travaillé dans l'édition.
Absolument.
Alors vous êtes né à Marseille.
Oui,
parce que
je le revendique.
Enfin, le revendiquer. Et une enfance tranquille, heureuse, sans gros problèmes.
Absolument, c'est vrai, je suis né en 39, donc la guerre, hein, mais je ne l'ai pas ressenti, si j'ose dire. J'étais à la campagne chez mes grands-parents, et enfance heureuse, oui, on peut le dire.
Avec des études toutes simples, vous imaginez
très
pas
simple.
Oui, le plus simple possible, c'est-à-dire que ce n'était pas votre truc.
Non, pas vraiment.
Vous avez quand même été jusqu'au bac.
J'étais jusqu'au bac, mais il s'est dérobé à moi, donc
ouais.
Je n'ai pas eu le bac. Vous voyez comme quoi on peut faire des carrières et pas avoir le bac.
Voilà, c'était l'époque de la bande du drugstore, je ne sais pas si vous avez connu.
Absolument, bah, totalement, j'en faisais partie. Mais...
Alors c'était sur les Champs-Élysées,
oui.
Ils allaient ensuite chez Renoma,
oui.
Ils mettaient des costumes les uns sur les autres et ils sortaient sans payer parce que...
Mais oui, mais ça m'est arrivé.
C'est vrai ?
Oui, absolument, mais on m'a rattrapé quand même.
Ah, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de détecteur.
Voilà, je sortais avec un blazer, sous le principe que je ne voyais pas à l'intérieur vraiment de quelle couleur il était. Quand j'étais dehors, je me suis dit oh bon, finalement il n'y avait pas de détecteur, hein.
Ouais.
Je me suis dit bon, finalement il me va bien, personne s'occupe de moi, je me suis barré, je l'avoue, hein, je ne l'ai jamais avoué à personne.
C'est une première.
Mais vous savez ce qu'on faisait au drugstore?
Non.
On avait un truc bien mieux avec cette bande au drugstore. Quand le drugstore a ouvert, c'est devenu un lieu mythique.
Oui.
Parce que...
C'est Marcel Blossel-Blanchet, voilà, qui l'a inventé.
Et il y avait dès 5h de l'après-midi, 6h, c'était bourré, pour trouver une table c'était dément. Donc on arrivait à 2h. On squattait 3-4 tables avec des potes, on attendait jusqu'à 4-5 heures, et dès qu'on voyait qu'il y avait du monde, on allait vers les gens, on leur disait « Vous voulez une table ?»« Bah oui, bien sûr, bah, écoutez, ça vaut 1 franc ou 2 francs. » Et on louait les tables avant, et on faisait payer les tables, c'est comme ça que je me suis fait un peu de fric.
Voilà, c'est une époque qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, avec les petits triomphes sur les Champs-Élysées.
Voilà, la jeunesse dite dorée. Les blousons dorés.
Et la comédie, c'est venu tout de suite. Pourquoi la comédie, Patrice?
Ça a toujours été mon esprit. On m'a toujours dit dans la famille que ça a été partie du fait que quand on allait à la messe et que tous les dimanches, dans les dîners familiaux, ou les déjeuners familiaux, je refaisais le serment du courroie, je montais sur une chaise, et je me croyais en chair, et on s'est dit, celui-là, il a une fibre, et ça ne m'a jamais quitté. Et j'ai toujours décidé de faire du théâtre. Mon père s'y est jamais vraiment opposé, ce qui est formidable de sa part, c'est un mec ouvert et intelligent. Et quand je lui ai dit, écoute, j'ai pas mon bac, je veux faire des cours de théâtre, il m'a dit, mon fils, si tu le ressens comme ça, fais-le.
Oui, et vous avez hérité de cette forme de nonchalance qu'il avait, oui. On vivait au jour le jour sans se préoccuper du lendemain.
Exactement.
Mais ça marchait quand même.
Bah oui.
Et vous avez pris des cours chez un monsieur qui s'appelle Yves Furet, un peu oublié aujourd'hui, qui a été la voix de Zorro dans Le Signe de Zorro et qui a fait dans les mailles de l'inspecteur Vitos une émission qu'on écoutait sur Radio Luxembourg le soir.
Je me souviens de ça, mais je ne savais pas que c'était lui.
Alors, c'était Yves Furet.
Vous êtes appuyé de science. Hein,
et pourquoi vous avez choisi ce prof? C'était par hasard?
Bon, j'en ai fait d'autres. Hein. J'ai travaillé, la première était une vieille comédienne qui s'appelait Maddy Berry qui me faisait travailler dans son salon tout seul, donc comme sûrement pas excité longtemps. Et Yves Furet avait à l'époque... Il a employé les méthodes de l'acteur studio, dit de l'acteur studio. Donc pour les jeunes comédiens, ça faisait américain, ça faisait bien. Donc on allait chez Furet. Il y avait Yves Régnier, il y avait moi, il y avait Roland Giraud, il y avait d'autres gens.
Oui, et puis il y avait quelqu'un aussi que vous avez rencontré pour qui vous avez écrit les paroles d'une chanson.
De ta robe trop simple où tu veux te cacher. Ayez des projets pas tellement d'argent.
Le Madras. Michel Sardou, une chanson oubliée dont vous êtes l'auteur.
Absolument. Et ils étaient arrivés tous les deux avec Michel Fugain, ils ne se connaissaient pas, mais ils sont arrivés au même moment.
Oui.
Ils étaient des jeunes, moi j'étais déjà ce qu'on appelle une vedette de cour, et Yves Furet m'a dit, tu vas prendre ces deux jeunes et tu vas t'occuper d'eux. Et je leur ai monté L'homme à la peau de serpent de Tennessee Williams.
Oui.
On est devenus potes. Après, on a vécu assez souvent dans le studio d'un autre copain. Mais Sardou a fait, moi le théâtre, ça m'emmerde, je voulais te chanter. Fugain a dit, tu sais que moi j'ai fait les musiques, j'ai une guitare. Et ils n'avaient pas de parolier, je dis, bah écoutez, moi je vais faire parolier. Et voilà.
Et vous avez écrit une dizaine de chansons qui n'ont pas marché du tout d'ailleurs.
Pas vraiment. Et j'ai abandonné avant qu'il devienne célèbre. C'est peut-être grâce à ça qu'il est devenu célèbre d'ailleurs.
Et c'est vrai que Eddie Barclay a voulu lui rendre son contrat.
Absolument.
Persuadé que ça ne marcherait pas.
Absolument, comme quoi.
Et vous avez connu toutes les fêtes de Barclay, les mariages.
Absolument, j'étais sans arrêt les grandes fêtes blanches et tout. J'étais très pote avec Eddie. Et je m'en souviens encore avec émotion.
C'est-à-dire que c'était des fêtes qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Et vous étiez un fêtard à l'époque. Je crois qu'il y avait un restaurant, une brasserie du côté de l'avenue Victor Hugo qui était votre quartier général.
Ah bon, lequel? Je me souviens.
Vous mangez une brasserie place Victor Hugo et justement, ça a commencé autour d'un plat de Pâques, la première rencontre avec Sardou et Fugain.
Ah oui, c'est vrai. Mais comment ça s'appelait déjà? Je me souviens plus.
C'est le Scola ou le... Scossa, oui.
Voilà, le Scossa.
Mais c'est
une... moi, comment vous savez tout ça
Je me suis un peu renseigné.
Mais renseigné auprès de qui? Personne ne le sait plus.
Voilà.
C'est un limier.
C'était une époque totalement folle, c'est-à-dire que c'est une époque où on s'amusait vraiment, qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui pour la jeune génération.
On s'amusait avec pas grand-chose, je dis même dans l'enfance, on n'avait pas besoin d'avoir des ordinateurs, on n'en avait pas, mais l'imagination travaillait beaucoup plus qu'elle ne travaille maintenant quand on était jeune. On essayait de créer des trucs nous-mêmes, maintenant on se laisse un peu porter.
Et vous envisagez une carrière de comédien ou vous aviez d'autres envies?
Ah non, je voulais être vraiment comédien. Et mon père, j'ai eu de la chance de passer une audition, j'étais engagé par les Tréteaux de France pour jouer Aymon dans Antigone d'Annoy.
Oui.
Jean Danet à l'époque dirigeait cette compagnie, qui était un truc important. Et il fallait un smoking. Et mon père m'a dit, oh non, je ne te paierai pas de smoking. Je lui ai dit, papa, tu es en train de foutre ma carrière en l'air. Et finalement, il a cédé, il m'a payé un smoking et c'est parti comme ça. Après, j'ai bifurqué.
Et vous auriez pu faire de la mise en scène aussi
Absolument, j'en rêve, j'en ai fait un peu, mais je préfère presque faire de la mise en scène que de jouer.
Oui, alors, parce que justement, ça permet de faire travailler votre imagination.
Exactement.
Alors, ces cours de comédie, finalement, ça a été utile ensuite pour la télévision?
Ah bah, impeccable. Comme la télévision a été importante aussi pour jouer après sur scène.
Voilà.
Un sens de l'improvisation, parce que moi je fais partie des animateurs qui ont, un peu comme vous faites là, qui écoutent et qui relancent, alors qu'il y en a beaucoup qui n'écoutent rien et qui posent la question qui les arrange juste après. Et donc ça, c'est une formidable formation dans les deux sens.
Et d'ailleurs, vous auriez rêvé d'animer un talk show, ce qui ne s'est jamais produit.
Absolument. Parce que les gens m'intéressent, j'aurais adoré poser des questions... Vous savez, si je vous prends, là, si on avait le temps pendant une demi-heure, je vais vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites. Parce que vous êtes un personnage et que les personnages m'intéressent, il y a des tas de failles et tout que généralement les intervieweurs ne vont pas chercher. J'aurais adoré ça. Mais comme en France, on a coutume de vous mettre dans une case et que j'étais un bon animateur de jeu et qu'en plus les jeux que je, par peau ou par nez, les jeux que j'ai faits ont tous marché longtemps et très bien, bah, la France, un animateur de jeu, bah, je le regrette. Voilà.
écoutez, il y a d'autres questions, mais c'est moi qui vais vous les poser dans quelques instants, à travers une autre date, le 9 septembre 1964. À tout de suite sur Sud Radio, avec Patrice Lafont.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Patrice Lafont. Il y a cette pièce, commencée voici quelques jours, dernier carton au gymnase, lundi, mardi, mercredi à 20h. On va en reparler tout à l'heure, on revient à votre parcours avec une date, le 9 septembre 1964.
J'ai pas de mémoire.
Eh bien, sortie de ce film-là. Ça vous dit quelque chose, hein, le gendarme de Saint-Tropez?
Ben non, le gendarme de Saint-Tropez, c'était... une extraordinaire aventure.
Comment ça s'est passé? Je crois que Jean Giraud vous a repéré au cours
Furet.
Du Furet.
Furet. Et j'ai passé une audition et il m'a pris, qui a failli pas se faire parce que quand j'étais convoqué à une telle heure en fin d'après-midi à studio, j'ai pris un taxi, il voulait pas m'y emmener, il m'a dit « Oh non, c'est trop loin » et tout à l'époque, tout comme ça. Du coup, on s'est énervé, je suis sorti, j'ai claqué la porte tellement fort que la vitre du taxi est tombée. Le mec est sorti, on a commencé à s'empoigner, à se taper dessus. Et finalement, on est allé au poste. Enfin, c'est parti comme ça. Ouais. Finalement, je suis arrivé.
Non, pas avec des gendarmes, c'est drôle.
Voilà, ça. Presque, c'est des policiers. Et puis voilà, et puis ça s'est fait. Et l'aventure a été magnifique. Magnifique. Oui.
Vous étiez le fiancé de Geneviève Grade.
Exactement.
Donc vous étiez très amoureux d'ailleurs, mais ça...
Mais ça n'a pas marché, elle était très amoureuse du premier assistant.
T'as pas de chance.
Voilà.
Donc vous avez découvert Saint-Tropez finalement.
Oui, bah oui, que je connaissais déjà un petit peu, mais très peu. On a passé quand même, à cette époque, un mois et demi à Saint-Tropez, dans un vieux Saint-Tropez qui n'est plus du tout.
Oui.
Et dans des conditions magnifiques, on ne pensait qu'à une chose, toute la bande de jeunes, parce qu'on était quand même 8 ou 9 jeunes, à déconner, à les bronzer, le film, on n'avait rien à faire. Pas grand-chose à faire, et les deux funestes nous en voulaient terriblement à cause de ça, parce qu'on n'arrêtait pas de déconner. Quoi.
Oui, parce qu'il était du méticuleux à l'extrême de funeste.
Oui, et puis même méchant.
Je crois que c'était le trac, surtout.
Moi, peut-être, vous l'excusez comme ça, pas moi.
Parce que moi, je l'ai connu un petit peu, bon. Et un jour, il m'a raconté que l'ouverture et la fermeture d'une porte, il avait mis 4 heures à régler la bonne fermeture, il voulait que ce soit
ah
parfait.
Bon.
Oui.
Ah bon.
C'était presque une passion à l'extrême.
Vous voulez que je vous dise un truc, il m'a jamais fait rire, moi.
Ah oui, jamais. Ouais, pourtant, c'est fou le succès de funeste.
Ben, je vais être un des rares, mais il m'a jamais fait rire.
Ouais. En tout cas, pas sur ce film. Vous avez passé des journées, d'ailleurs, sur la plage, à bronzer. Alors, c'était totalement interdit, je crois, par la production.
Absolument. On nous avait dit, le premier jour, surtout n'allez pas bronzer, car à l'époque, la pellicule n'était pas la même, elle n'était pas aussi précise. Et il nous avait dit, ça va faire gris, les maquilleuses vont avoir un travail de folie. On l'a fait, et il s'est passé, on s'est fait engueuler dès le début.
Voilà. Et les maquilleuses, effectivement, ont eu du travail après.
Exactement.
Et il y en avait un, en revanche, qui était très sympa, c'était Michel Galabru.
Oh, Galabru. Formidable. Lui, il nous donnait des conseils, il s'intéressait à nous, à cette bande de jeunes. Et Galabru est génial. Et la femme, comment ça
s'appelle ? Claude Jansac.
Claude Jansac, magnifique aussi, très gentil.
Mais vous savez que Galabru a failli ne pas avoir le rôle. Au départ, c'est Pierre Mondy qui devait jouer ce rôle.
D'accord.
Il a été pris par une pièce, il a annulé en dernière seconde, et c'est Galabru qui est venu sur le tournage.
Bah, c'était très bien avec Galabru.
Vous pensiez que ce film aurait autant de succès ?
Jamais, vous rigolez. Et d'autant plus, pour l'anecdote, j'avais convoqué toute ma famille. C'était mon premier grand film, j'avais un rôle quand même important. Il m'avait oublié générique.
Comment ça se fait ?
Ben, j'étais pas au générique. Donc j'ai dit au producteur, comment ça se fait ? Oh, excuse-nous, c'est un oubli et tout, et comme ça. Mais tu tourneras dans les autres films, mais il n'a pas tenu parole, je n'ai tourné dans aucun film.
Dans aucun film. Et un cachet, je crois, qui était un peu moins de 3000 euros pour 2 mois de travail.
Oui, même pas 3000 euros à l'époque. Non.
Et vous savez d'où vient l'idée du film, du journal Saint-Tropez ?
Non.
C'est Richard Balducci.
Oui, Balducci.
Oui. Il se trouvait à Saint-Tropez, on lui vole dans sa voiture sa caméra. Il va à Saint-Tropez à la gendarmerie, où vraiment le gendarme n'en a rien à faire, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de dire
«
Oui, on fait ce film ».
Oh, il sait tout ce Pessis.
Alors, dans ce film, à la fin, on vous voit avec des jumeaux, et vous avez retrouvé un de ces jumeaux quelques années plus tard.
J'étais en train de jouer à la pétanque, parce qu'après je suis allé souvent à Saint-Tropez en vacances, et il y a quelque chose, je joue à la pétanque, il y a un mec, ça m'arrive souvent, parce que les gens vous apostrophent quand vous êtes un peu connu, il me dit « Bonjour, vous ne me reconnaissez pas ?» Je lui dis non, je ne vous reconnais pas. Il m'a dit, je suis l'un des jumeaux que vous avez tenus dans les bras à la fin du film. Il avait 40, 45 ans, donc voulez-vous que je le reconnaisse. Mais du coup, ça m'a fait vraiment plaisir. On est allé prendre un pot, on a même dîné ensemble, je crois.
C'est fabuleux. Ouais. Alors, il y a eu le gendarme de Saint-Tropez, mais votre première apparition dans une fresque dramatique, c'était un téléfilm de Jean Kerchbrun qui s'appelait Fond au Cabre.
Oui, absolument.
Ça n'a rien à voir.
Ah, vraiment rien à voir. Puis c'était en direct à l'époque. Oui. Hein. Et je ne me rappelle plus du nom du mec qui jouait c'était un chanteur. Mais il y avait une grosse moustache et tout. Oui. Et il y a
René-Louis Laforgue.
Le René-Louis Laforgue, oui. Exactement. Et quand on était en direct, comme ça, il y avait de la figuration et tout. Je me souviens que j'avais le pourpoint de Gérard Philippe dans Tille d'Espiègle. Et comme on était, il y avait des foules derrière nous, il y avait un mec qui voulait prendre ce qu'on appelle le créneau pour qu'on le voit un petit peu. Il tirait sur mon pourpoint, j'avais peur qu'il le déchire et tout, et j'étais obligé de lui filer des coups. Enfin, ça ne se voyait pas, mais c'était une belle aventure, très belle aventure.
Oui, et première aventure avant d'autres. Et puis, il y a un film qui est un classique aujourd'hui, qui est Le Soupirant de Pierre et Texte. Vous jouez dedans, Patrice Lafont.
Oui, enfin, je joue, je fais signer un autographe.
À Stella, la chanteuse.
Exactement, qui était la femme de Charlémagne Roigné.
Et mais en même temps, c'est tourné avec Pierre et Texte, c'était un génie.
Pour moi, ça ne me disait pas grand-chose à l'époque, mais j'étais très content, c'était mon premier film.
Voilà. Et ce film, d'ailleurs, a disparu pendant des années, pendant 30 ans, pour des histoires de production. Et Pierre et Texte, peu avant sa mort, est parvenu à reprendre les droits, à ressortir ces films qui sont devenus des classiques en DVD.
Ah bon ?
Oui. Et puis, alors, vous avez tourné avec Jean-Pierre Mocky à ses débuts.
Les Vierges.
Les Vierges. Cinq jeunes filles qui vont perdre leur virginité.
Le bon Jean-Pierre. Et là, j'ai mis aussi une anecdote marrante, c'est que ma partenaire était Stefania Sandrelli, qui était une ravissante jeune italienne. Et j'avais une scène de baiser, et moi j'étais pas au courant, c'est comme ça, et bon, on va le dire franchement, j'ai mis la langue, et elle m'a filé une baffe de folie, et Jean-Pierre était écroulé de rire, je lui ai dit, t'aurais pu me prévenir, et tout, pour moi, bon. Ça a été dramatique, et elle m'a plus parlé de tout le reste du film.
Et Jean-Pierre Mocky était déjà le professionnel survolté qu'on a connu.
Magnifique chose, c'était copain jusqu'à quelques jours avant, si j'ose dire presque, avant son décès.
Est-ce que vous savez qui étaient les scénaristes de ce film, les Vierges?
C'était
Jean Anouilh et Geneviève Dorman, romancière.
Semblable. Jean Anouilh.
Oui, il a contribué au scénario de cette histoire.
Ah bon? C'est tout.
Alors,
Ressort d'ici, finalement, on en sait plus que quand on est entré. Quoi.
Sur vous, en tout cas.
Non, mais sur ce que vous dites.
Et puis, il y a un film qui a marqué une génération dans une comédie où vous êtes aussi, dont la bande originale est devenue un succès discographique beaucoup plus que le film.
À la tête du client, on sait déjà ce qu'il attend. C'est le coup de pan ou bien le 10%. Tout dépend de la tête du client.
Alors là, c'est une époque de films totalement disparus aujourd'hui avec Jean Poiret, Michel Serrault, Francis Blanche et Patrice Lafont.
Oui, et Patrice Lafont en autre.
Et c'est vrai que vous avez tourné dans ces films avec des monstres sacrés qui s'amusaient beaucoup plus en partant du scénario qu'ils refaisaient à volonté.
Mais c'était génial de travailler avec eux. D'abord, ils étaient très gentils. Et en plus, j'ai porté bonheur finalement parce que Geneviève Gratt, c'est son premier film. Et c'était le premier film de Caroline Cellier.
Oui.
Donc voilà, j'ai porté bonheur à deux comédiennes qui ont fait des belles carrières, surtout Caroline.
Voilà, alors c'est ces films-là, avec avoir fréquenté Poiret, Serrault, Francis Blanche, ça devait être
Darry Cole, il y avait Darry Cole aussi.
C'est des moments de folie.
De folie. Enfin, qu'on appréciait peut-être pas autant que je les aurais appréciés plus tard, parce qu'on était j'avais le trac, j'étais face à ces gens qui avaient pour moi une aura absolument extraordinaire. Mais c'était bien parce qu'on travaillait dans la décontraction, dans le rire et tout.
Oui, en même temps, Francis Blanche faisait des blagues sans arrêt.
Oui, ils n'arrêtaient pas.
Je sais que dans les mariages de Barclay, notamment, puisque vous avez fréquenté, il envoyait toujours deux télégrammes, je serai là comme d'habitude, ou je ne viendrai pas, mais je serai là la prochaine fois. C'était une forme d'esprit qu'on ne peut pas imaginer. Et Serrault n'était pas encore aussi fou qu'aujourd'hui,
qu'à la fin de sa vie. Après, oui. Voilà.
Et puis, il y avait Jean Richard aussi. Qui, avant de devenir Maigret, a fait
il
des revues.
Il y avait Jean-Richard, oui. Absolument, qui faisait le patron d'une espèce de salle de jeu.
Voilà. Oui. Et ce qu'on oublie, c'est que Jean-Richard et Georges Guettari ont rempli le Châtelet pendant 3 ans, tous les jours, avec la Polka des Lampions de Marcel Achard. C'est une époque qui n'existe plus non plus.
Non.
Et puis, vous avez tourné aussi dans un autre film de Raoul André, où vous êtes justement le fils de Francis Blanche, qui s'appelle Ces messieurs de la gâchette.
Ça aussi. J'en garde pas un souvenir ému.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, parce que je crois que c'était assez mauvais et que moi aussi, je n'étais pas très bon.
Oui, mais en même temps, c'est des films qu'on faisait comme ça à la sauvette. Raoul André, qui était le père d'Ariane Carletti, qui nous a quittés voici peu de temps, était un metteur en scène spécialiste de...
Il y a une anecdote que vous ne connaissez pas. Raoul André, toute la journée, réalisé en pantoufles.
Ah bon ?
Il était sur le plateau en pantoufles.
Voilà.
Voilà.
Comme ça. En même temps, il a fait des films comme La Polka des Menottes. Mais c'est des choses qui vous ont marqué ou pas du tout, parce que c'était...
Non, pas vraiment.
Pas vraiment.
Pas grand-chose me marque, moi je vous le dis tout de suite.
En tout cas, vous avez marqué Armand Jamoux, car un jour, il vous a repéré pour vous engager sur Aujourd'hui, Madame.
Il ne m'a pas repéré. Disons que je travaillais un peu avec mon père, parce qu'une collection, mon père s'était mis dans la tête de faire une collection de jeux de société dans une boîte d'édition, ce qui est une erreur complète, parce qu'on a pris un bide. Armand voyait bien que je m'embêtais. Il m'a dit, mais viens, Coco, viens essayer la télé. Je connais le lendemain. Ça a été Aujourd'hui, Madame. C'est parti comme ça.
Voilà. Et il y a eu d'autres choses ensuite. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 4 janvier 1972. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrice Lafont.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Patrice Lafont. Il y a cette pièce, Dernier carton, au gymnase, dont on va parler tout à l'heure. Et on revient sur une date très importante pour vous, le 4 janvier 1972. Ça vous dit quelque chose ?
C'est mes débuts au chiffre et lettres ?
Exactement, avec ce générique. Alors là aussi, c'est une proposition d'Armand Jameau ou Patrice Lafont.
Oui, absolument. Je travaille avec lui pour Aujourd'hui Bonhomme depuis 2 ans.
Et Aujourd'hui Bonhomme qui était la première émission où il y avait des chroniqueurs. C'était absolument. Pas courant à l'époque.
Absolument, c'est vrai. Non, mais c'est Armand, c'est un visionnaire. Hein. Ouais. Et qui touchait beaucoup de femmes l'après-midi, c'était sympa. Je l'ai présenté un petit peu, mais surtout j'ai fait des reportages. Et puis un jour, dans le groupe qu'il avait, parce qu'il y avait une grosse équipe, il s'est dit, quelle est la personne qui vaut pour eux. Puis j'étais plus jeune, plus dynamique et tout. Il s'est dit, bon allez, tiens, tu prends les chiffres à la Julie. Oh, j'ai pas trop envie. Si, tu vas le faire, et je l'ai fait.
Voilà, les chiffres et les lettres qui étaient la suite du mot le plus long arrêté 2 ans avant. Vous regardiez le mot le plus long à ses débuts ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Vous connaissiez pas vous ne regardez pas la télévision.
Si, je regardais un peu la télé, mais pas ça.
Voilà, il avait inventé l'émission dans un taxi, et surtout la première version du mot le plus long, ça s'appelait les 7 cases. Ça passait un dimanche sur deux à la télévision à 13h. Personne ne pensait que ça aurait autant de succès. Et le premier candidat du mot le plus long, est-ce que vous savez qui c'était ? C'était Maître Capello.
Ah, candidat ?
Candidat. C'est-à-dire, quand on voit les archives, la première émission présentée par Christine Fabrega et Jean Valton, le premier candidat, c'est Jacques Capello-Vissi, professeur. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il était au mot le plus long. C'est uniquement comme candidat.
Mais je vais ressortir de là érudit, alors.
et Jean Valton est totalement oublié aujourd'hui, alors que Thierry Leluron le considérait comme son maître. Il dit, si j'ai fait de l'imitation, c'est en voyant Jean Valton.
Ah, d'accord.
Alors, vous vous êtes retrouvé dans une émission, et vous ne pensiez pas que ça durerait aussi longtemps, Patrice Taffy.
Ah bah non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que je ne pensais pas une seconde. Et que quand j'ai décidé d'arrêter au bout de 17 ans, Armand m'a dit « Mais Coco, t'es complètement idiot, t'es dans un fromage !» Et effectivement, il avait raison, puisque fromage coule toujours, si j'ose dire, 46 ans après.
C'était une formule toute simple, mais encore fallait-il inventer.
Non, mais c'est la formule la plus simple qui marche. Hein.
Et alors, le succès est venu immédiatement, comment ça s'est passé ?
Je n'ai pas les souvenirs très précis, mais très vite, en plus, on passait à... On passait à 18h50, donc c'était l'access prime time. Donc, c'est venu très vite. C'était tellement simple. Calcul, orthographe, et voilà. Les mots, c'est l'essence de notre vie au départ. Hein,
et défense de la langue française.
Voilà, exactement.
On se préoccupait de ça à l'époque, tout le monde s'en fichait.
Pas vraiment, mais maintenant, on devrait s'en préoccuper un peu plus.
Et vous tiriez à l'époque des cartes dans un sabot.
Je tirais des cartes dans un sabot, oui, effectivement.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'ordinateur.
Non. Moi, j'ai pas. Jusqu'à la fin, au chiffrelette, j'étais avec le sabot. L'ordinateur est venu après.
Voilà. Et sabot que vous avez conservé, d'ailleurs, je crois.
Oui, j'en ai un beau chez moi.
Et c'était pas facile à mettre en scène parce que vous faisiez une émission où vous étiez pendant 45 secondes tout à fait inoffensif, vous ne bougiez pas.
Oui, puis entre les candidats.
Voilà.
Donc on me voyait quand même. Donc si je souriais, les gens me disaient « ils se foutent de notre gueule ». Et si je faisais la gueule, ils disaient « oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant ». Voilà, donc au bout d'un moment, il a compris qu'il fallait me mettre ailleurs et la caméra ne vienne sur moi qu'au moment où je parlais.
Oui, Armand Jameau, il faut le savoir, c'est un des pionniers de la télé.
Absolument.
Il a inventé beaucoup de choses.
Les dossiers de l'écran et d'autres.
Oui. Les dossiers de l'écran avec Alain Jérôme, qui était déjà le présentateur d'Aujourd'hui Madame.
Voilà.
Alors finalement, du jour au lendemain, vous êtes devenu populaire.
Populaire, absolument.
Ça a changé votre vie, Patrice Lafont ?
Non. Aussi, financièrement, c'est sûr. Oui. Mais non, pas vraiment. Oui, enfin, les gens ont commencé à me reconnaître et tout, mais je n'ai jamais été très attaché à ça. Donc voilà, oui, c'est devenu populaire.
Oui, et surtout, vous n'êtes pas une star de télévision. Aujourd'hui, on parle de star et vous détestez ce mot-là.
Voilà, je déteste le mot de star. Les stars, c'est autre chose. Les stars, c'est les gens qui laissent une trace. C'est un présentateur de télévision, je ne sais pas lesquels. Vous me parlez de... Je ne vais pas prononcer le nom, mais dans 15 ans, on les aura tous oubliés.
Oui, ou même avant, parfois.
Ou même quelquefois.
Et surtout, c'était une télévision familiale qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, Patrice Lafont.
Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Mais enfin, je ne veux pas cracher dans la soupe. C'était ce que c'était. Maintenant, c'est autre chose. Il y a du bon dans l'un, du bon dans l'autre, du mauvais. Enfin bon, je vais pas...
Il n'y avait pas de problème de décor, il n'y avait pas de problème d'audience.
Ah, les décors étaient tellement moches qu'effectivement, il n'y avait pas de problème de décor. L'audience commençait un petit peu.
Oui.
Pas au début, mais vers la fin. J'ai fait 17 ans, vers la fin. Armand, il regardait les audiences quand même.
Et c'était une aventure de copains, vous étiez tous copains, vous déjeuniez entre vous.
On avait les copains qu'on avait envie d'avoir, mais c'est comme tout. Mais moi, ça ne m'a jamais monté à la tête en tout cas.
Il y a quelqu'un que vous aimiez beaucoup, c'est Max Favalelli.
Oui, oh, Max. Parce que Max était l'érudit par excellence, et quand il nous, entre les coupures, quand on allait déjeuner entre une série d'émissions, il nous emmenait dans une petite pâtisserie qui était tout près de la rue Conakry, et on prenait des mille feuilles, des trucs comme ça, et il nous racontait sa vie, et sa vie était un roman, quoi.
Oui, il est devenu l'un des rois des mots croisés, verbigruciste, et savez-vous qui lui a conseillé de faire ce métier de versicrubiste ?
Jacques, vous allez me le dire.
Et ben c'est Tristan Bernard, spécialiste des mots croisés, qui a dit à Max Favelli, fais-le, deviens verbigruciste.
Et il a réalisé. Vous sortez ça d'où ?
Ah ben je me suis un peu renseigné.
Un peu beaucoup. Oui.
Et il a réalisé plus de 70 000 grilles de mots croisés.
Oui, bon, il le ressort toujours.
Hein. Exactement. Alors c'était un temps où il n'y avait pas de buzz, où on s'amusait sur le plateau, tout se passait bien. Un jour vous en avez eu assez, vous êtes resté mais en coulisses. Vous êtes producteur toujours des chiffres et des lettres.
Oui, ça, oui c'est ça. Oui, je suis toujours producteur des chiffres et des lettres. Enfin, ça, il y a eu une longue période, j'ai quitté, j'ai fait autre chose. Et puis un jour, Michel Cotta m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais reprendre cette émission ? Elle m'a d'abord posé la question, elle m'a dit, en 2000, à ma place, qu'est-ce que tu ferais, Michel Cotta, qui était directrice du programme ? Tu garderais ou tu supprimerais ? Et moi, je ne suis pas très gentil avec mes camarades, je lui dis, je supprimerais.
Oui.
Il me dit, mais t'es complètement fou, ça marche à l'étranger, on gagne du fric grâce à ça. Je dis, bon, bah alors ne me demande pas ce que je dois faire. Et c'est parti comme ça.
Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes en coulisses et vous avez modernisé les chiffres et les lettres.
Absolument.
Mais c'est le changement dans la continuité.
Oui, oui, non, enfin, j'ai beaucoup mélangé parce que l'émission allait un peu disparaître, et même disparaître complètement. Et le directeur des programmes, Emmanuel Garcia, m'a dit, écoute, essaye de trouver une formule qui soit plus proche des jeux actuels. Ce que j'ai fait, j'ai un petit peu réduit la part chiffre et lettre, puis j'ai amené d'autres choses, et j'ai fait une émission un peu plus moderne, où on gagne un peu plus d'argent.
Oui, et puis les clubs des chiffres et des lettres marchent toujours autant.
Moins.
Moins.
Il y en a moins, mais enfin bon, ça a très très bien marché. Armand avait fait une fédération, non, ça marche moins. Mais...
En même temps, c'est une émission inusable qui peut continuer pendant des décennies, bien après vous, Patrice Lafont.
Bah, bien sûr, j'espère pour l'émission, j'espère pour mes camarades, j'espère pour Romeshko qui est là depuis plus longtemps que moi, il est là depuis 25 ans, je crois. Donc, voilà.
Et puis, il y a eu une autre aventure qui a duré longtemps, c'est Pyramide. Et là, ça vous a amusé.
Pyramide, c'est un jeu que j'adore, que j'ai présenté pendant 13 ans avec une petite coupure, à un moment je suis parti puis revenu, c'est un jeu qui intellectuellement me passionnait et auquel je jouais tout le temps pendant l'émission, quelquefois j'en oubliais de reprendre la parole parce que je jouais comme les candidats.
Avant à ce point-là ?
Ah oui, je me disais mais à leur place qu'est-ce que je ferais ? Et voilà, donc non, j'ai adoré ce jeu, c'est vraiment un très beau jeu.
Et ça pourrait reprendre aujourd'hui, ça
a repris ? Ça a repris sous une certaine formule, mais pas exactement la même et ça n'a pas marché de la même façon, mais je pense que si on le refaisait à l'identique, ça remarcherait.
Et puis quelque chose qui a marché et qui marche toujours, dont vous êtes le pionnier. Fort Boyard, c'est vous, le premier présentateur. Je crois que ça s'appelait les Clés de Fort Boyard, d'ailleurs.
Absolument,
la première année.
Fort Boyard au début, la première année.
C'est arrivé comment, ça ?
Bon, c'est arrivé que c'est un visionnaire, encore le deuxième visionnaire de cette époque, c'était Jacques-Antoine, qui était un monsieur extraordinaire, qui a eu quand même l'idée, ça n'existe plus, de construire une mécanique de jeu à partir d'un décor. C'est, pour ceux qui ne savent pas, le contraire, on pense à un jeu, s'il est accepté, on fait un décor autour. Là, il s'est dit, c'est un magnifique décor de jeu, qu'est-ce que je peux y faire ? Il a inventé ce truc absolument dément qui s'appelle Fort Boyard.
Voilà. Oui, donc personne ne voulait au départ.
Bon,
la première année, ça n'a pas été évident.
Non, ça n'a pas été évident du tout.
Mais quand on l'a proposé, vous avez cru à ce projet ?
Oh, mais ça me semblait tellement fou, partir, aller tourner sur un fort au milieu de la mer et tout. Déjà, il y a un côté un petit peu aventure, comment que ce soit pas un grand aventurier. Et Marie-France m'a dit. Alors, le seul truc qui m'a fait hésiter, c'est que le réalisateur supposé de l'époque, qui s'appelle Jean-Paul Jaude, un copain d'ailleurs, m'avait dit il faut que tu te fasses raser la tête pour donner un look. Et là, toucher à mes cheveux, j'en ai plus beaucoup, mais à l'époque. Ça faisait partie de ce que je pensais intéressant dans mon physique. Je lui ai dit, je n'en ai pas question, je préfère pas faire l'émission. Finalement, ils y ont renoncé, heureusement.
Et Jacques-Antoine, effectivement, était un visionnaire très coléreux. Quand il était en colère, il cassait une pipe, il cassait un téléphone. Moi, je l'ai vu un jour sur les Champs-Élysées. Il était avec sa voiture, un policier veut le verbaliser. Il n'a pas le temps, il laisse les clés aux policiers au milieu des Champs-Élysées et il est parti.
Semblerait.
Oui, je l'ai vu.
Des personnages comme ça,
des personnages extraordinaires.
Ah, génial.
Alors finalement, ce Fort Boyard, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au départ, Louis XIV voulait le faire construire et ça n'a pas marché. Et c'est Napoléon qui a repris l'idée et ça n'a pas marché non plus. Il a fallu attendre Jacques-Antoine et Patrice Lafont.
Non, mais c'est-à-dire que ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il voulait tirer sur les assaillants, mais le temps que ça soit construit, les canons avaient pris une autre dimension. Et on n'avait plus besoin de ce fort pour tirer dessus. Donc voilà, donc ça n'a pas. Après, ça a été une prison. Après. Et c'est Jacques qui a fait la chasse au trésor avec le lieu-le-veu là-dedans et qui s'est dit après, mais qu'est-ce que je pourrais faire de ce truc ? Et il a fait Fort Boyard, qui dure toujours.
Et au début, c'était vos vacances, c'était la Thalasso avant les vacances,
exactement. Mais moi, j'ai toujours pris comme ça.
C'est-à-dire ?
Bah, j'y allais, c'était au mois de... Maintenant, c'est un peu plus... Mais j'étais au mois de juin, on respirait, on prenait le bonnet, on se marrait, on travaillait beaucoup plus lentement que, qu'on travaille maintenant. Là, maintenant, ils enchaînent, c'est devenu une machine de folie, on était la moitié moins... Et c'était génial, quoi.
Et d'ailleurs, pendant longtemps, on a cru que vous étiez le père Fouras.
Non, c'est pas vrai. C'est une légende qui court, mais oui. Comment voulez-vous que je sois le père Fouras?
Non, mais la légende a couru et certains l'ont cru.
C'est vrai?
Oui.
Bon, bah, écoutez, maintenant, je pourrais l'être. Mais,
oui, et surtout, vous êtes retrouvé dans le décor du père Fouras l'été dernier.
Absolument.
Qu'est-ce qui s'est... Comment vous se
retrouvez? Ils m'ont proposé, ils m'ont dit, oh, écoute, on veut faire, c'est les 30 ans, on veut faire un truc, est-ce que tu accepterais, est-ce que tu aurais l'humour d'accepter d'être dans un placard, qu'on te retrouve par hasard et qu'on te dépoussière, tu as plein de toiles d'araignée. Moi, comme j'ai un recul complètement sur tout et sur moi-même en général, j'ai dit, mais pas de problème, mais vous me payez. Oui, oui, bah alors j'y vais.
Voilà. Mais vous avez quand même fait pas mal d'années, 10 ans, je crois, à Fort Boyard. Mm-hmm. Vous auriez pu continuer aussi plus longtemps, non, Patrice?
Oui, mais j'ai toujours arrêté quand j'en ai eu envie. Quand j'ai dit que j'ai arrêté Fort Boyard, Marie-France Boyard, la productrice de l'époque, m'a dit, mais t'es complètement fou, tu peux continuer en quelques années. Je lui ai dit, non, écoute, j'en ai fait le tour, j'ai fait le tour du fort, et ça va vite de faire le tour du fort. J'ai l'impression de me répéter, je n'ai plus envie, j'arrête. Elle n'y a pas cru, et puis j'ai arrêté.
Et en même temps, c'était une autre époque, puisqu'à l'époque, les candidats n'étaient pas des personnalités, mais des anonymes. Et ça, c'était important, Patrice.
J'ai eu les deux.
Oui.
J'ai eu les deux. Au tout début, les 3-4 premières années, c'était des anonymes, et moi, j'ai préféré ça, d'abord parce qu'ils se prenaient au sérieux sans se prendre au sérieux, vous voyez ce que je veux dire? Parce que dès qu'on a des vedettes télé, à mon profil, là, mais je suis pas bien, comment il devait être à l'image, dans les plus anonymes, ils voulaient gagner, ils s'entraînaient avant, et ça avait un côté, challenge qui me plaisait bien.
Et cette année, si vous avez accepté en 2019 de revenir, je crois que c'est aussi pour faire plaisir à votre fille Mathilde, Patrice Lafay.
C'est vrai, Mathilde m'a dit, j'ai hésité, elle m'a dit, mais vas-y, parce qu'elle adore ce truc. Elle y est montée chaque fois que j'allais sur Fort Boyard, et encore récemment. Elle m'a dit, papa, pour elle, c'est un truc que, bon, elle adore être sur le fort, elle adore... Donc j'ai dit, allez, bon, elle me dit de le faire, allons-y.
Et vous reviendrez peut-être en 2020, non? Au plus tard?
On verra comment je suis, je veux dire, 2020, c'est très loin pour moi, vous savez, je compte les jours maintenant.
Oui, non, mais en même temps, vous avez escaladé les marches du fort sans loin de problème en
2019. Oui, mais c'est fait d'une fois, Jacques.
Oui, pour l'instant...
Je suis assez fataliste.
Oui, mais vous avez d'autres ambitions, et notamment cette pièce qui a débuté le 13 janvier 2020. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Patrice Lafond.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Patrice Lafond. 13 janvier 2020, lundi dernier, première de dernier carton, au théâtre du Gymnase, lundi, mardi, mercredi à 20h.
Petit gymnase.
Du petit gymnase, c'est juste à côté du grand gymnase. Oui. Et c'est une pièce particulière parce que c'est une pièce dans un décor qui n'a pas coûté très cher, qui est vide pratiquement, il y a un carton.
Absolument.
Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que là, je crois que c'est une rencontre entre deux hommes qui tout oppose, un locataire et un déménageur.
C'est très original parce que d'abord, c'est très bien écrit. C'est un jeune auteur, donc c'est la troisième pièce, mais qui jusqu'à maintenant, enfin, qu'on ne connaissait pas.
Olivier Ballu.
Olivier Ballu, qui a 40 ans maintenant, mais il en avait 30, 35 quand il a écrit cette pièce.
Oui, d'ailleurs, la Société des auteurs est rue Ballu. C'est assez curieux.
Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Ouais, bah, ça devrait lui porter bonheur. Je n'y ai pas pensé non plus. Décidément. C'est assez rare au théâtre, c'est un thriller psychologique au théâtre entre deux personnages. C'est pas du tout une pièce comique, il y a des moments où c'est drôle, parce que c'est tellement fou que bon, comme ça, mais ces deux personnages que tout oppose se retrouvent dans un appartement. Je suis un vieux présentateur d'une émission littéraire, je déménage, ma fiancée m'a quitté. Il arrive pour me déménager, il va enlever le dernier carton, et au lieu de l'enlever, ben, il part pas, et il commence à me parler de choses, mais complètement... il est soi-disant écrivain, enfin, comme ça. Et peu à peu, la tension monte, et ça se passe très, très, très mal entre eux, très mal.
Oui, et c'est un rôle dans lequel on ne vous attendait pas, Patrice Lafond, un rôle très dramatique.
Je dirais que moi, je m'y attendais, parce que c'est beaucoup plus ma voix que faire du comique, mais effectivement, les gens qui m'ont vu dans d'autres pièces plus de boulevard sont un peu étonnés.
Et c'est une envie que vous aviez depuis longtemps?
Bon, j'ai joué des classiques, j'ai joué le misanthrope, ouais. J'ai joué des choses comme ça, mais effectivement, je préfère jouer ce genre de choses.
Et l'auteur dit que vous lui avez donné le point de départ de cette pièce.
C'est vrai.
Qu'est-ce que c'est-à-dire?
Oh, c'est un peu long à vous expliquer, mais c'est vrai que, si vous me laissez 2 minutes...
Oui, bien sûr.
Eh ben, j'étais chez moi, j'ai une copine avec qui j'étais depuis un moment qui s'en allait, et j'avais voulu rester là. J'avais dit, je ne veux pas que l'appart retrouve, comme la plupart des meubles appartenaient. Enfin, j'ai dit, je veux rester là, errer, à voir, à l'emballer tout. Et puis, au bout d'un moment, elle m'a dit quelque chose. Elle a voulu prendre les pointes, les trucs pour accrocher les tableaux. Là, ça m'a écœuré. Je suis sorti et le déménageur qui était en bas avec son camion, il me dit, monsieur Lafont, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que je peux arranger? Parce que vous semblez être, vous êtes un jeune couple, vous êtes beau, vous êtes. Je lui dis, non, qu'est-ce que vous voulez faire pour moi? Donc, comme ça. Et à partir de là, je me suis dit, mais l'idée que ce mec, qui est un déménageur et qui se trouve face à une vedette, entre guillemets, de télé, qu'il a envie d'arranger sa vie, c'est un bon point de départ. Je l'ai donné à Olivier, il en a fait une autre pièce que celle que j'aurais écrite moi, mais c'est quand même le point de départ.
Et c'est aussi quelque chose sur la non-communication, c'est-à-dire le contraire de la communication d'aujourd'hui, Patrice Lafont.
Exactement, exactement. C'est exactement ça, c'est deux personnages que tout sépare, et que, mais qui vont finir, et c'est ça qui est intelligent, par petites bribes et par trucs comme ça, par se rapprocher l'un de l'autre, et ça finit plutôt bien.
Oui, mais en même temps, c'est presque un phénomène de société. La peur de l'autre, aujourd'hui, elle existe, et vous l'évoquez dans cette pièce.
Exactement, mais tout à fait. Enfin, c'est surtout moi qui ai peur, parce que je suis un mec qui a vécu dans le coton pendant des années, qui suis quelqu'un de célèbre et tout, il se trouve face à un mec très violent, qui pourrait être presque à la limite un terroriste. Donc au début, il ne comprend pas bien, puis peu à peu, la peur monte, et puis je ne vous raconte pas le reste, parce que c'est très surprenant.
Oui, et en même temps, vous évoquez les barrières de classe qui sont franchies par l'extraction.
Absolument, absolument. Bah, forcément, puisqu'on n'est pas du tout, on ne vient pas du tout d'un même milieu. Au début, je suis assez cynique, je me fous un peu de lui, puis peu à peu, il y a une réflexion aussi où je me dis, mais finalement, peut-être sur certains points, il a raison.
Alors c'est une autre façon de vous découvrir, parce qu'on ne vous imaginait pas dans des sujets presque de société, Patrice Lafont.
Bon, je ne sais pas, je ne suis pas un con non plus, hein, mon petit Jacques.
Non, sais bien.
Mais effectivement,
c'est pas votre image.
Je pense que les gens... On l'a déjà joué
à Avignon, je crois. Oui.
Les gens, chaque fois, me disaient... Et puis, il y a un truc dans cette pièce, c'est un langage très quotidien, en même temps très bien écrit, mais c'est un langage de deux personnes qui se parlent. Et que moi, ma grande force, je pense en théâtre, c'est le naturel. Donc, c'est de jouer simple, de jouer presque cinéma, comme on l'a dit plusieurs fois. En plus, la salle s'y prête très bien, parce qu'elle est petite, donc l'acoustique est formidable. Et je le joue comme je vous parle. Donc ça, il n'y a pas de « Ah, comme au théâtre, on commence à parler un peu comme ça ». Non, je suis moi, dans la peau d'un autre personnage, mais que je pourrais presque être, parce que c'est un mec qui vient de la télé, qui a ma culture, donc il me ressemble pas mal.
Oui, en même temps, c'est la télévision vous a formé, vous avez fait rarement vos cartons à la télévision, vous êtes resté tellement longtemps dans les émissions.
C'est vrai que mes cartons, je les ai fait moi-même quand j'ai essayé de partir. Voilà. C'est vrai, j'ai fait des émissions qui ont duré 17 ans, 10 ans, 13 ans, voilà.
Le théâtre, finalement, c'était une vocation au départ, et qui devient tardive?
Non, elle n'est pas vraiment tardive, parce que même quand je faisais la télévision, je jouais, on pourrait dire, en amateur. J'avais une copine, j'ai toujours une copine qui a une grosse troupe à Vichy, donc j'allais jouer des grands classiques avec elle, j'ai fait des mises en scène, donc j'ai jamais été au chômage théâtre, si j'ose dire. Mais dès que la télé m'a un peu quitté, tout à fait normalement, parce que j'avais atteint la limite de consommation, je m'y suis replongé, et j'ai eu la chance d'avoir de très jolis rôles.
Et le théâtre, d'après mes renseignements, ça a commencé en 1966 au Théâtre Saint-Georges avec La bouteille à l'encre d'Albert Husson, mise en scène par Jean-Pierre Grenier.
Absolument.
Bravo. Qu'est-ce que c'était, ça?
Bon, c'était une pièce donc d'Albert Husson, dont l'acteur principal était Claude Dauphin.
Oui.
Merveilleux
frère de Jean-Marc,
et qui m'a donné, pour l'anecdote, parce que l'anecdote, ça fait toujours... m'a donné, j'avais une toute petite scène au début, j'étais son secrétaire, il était grand éditeur, tiens, encore une fois.
Bizarre. Tiens.
J'étais son secrétaire, il me donnait des ordres, et je sortais. Et après, j'étais obligé de rester jusqu'à la fin au Théâtre Saint-Georges, et à la fin de la pièce, parce que la directrice de l'époque voulait absolument que je salue avec les autres. Mais il se passait une heure et demie, je faisais rien, et je m'emmerdais. J'ai dit à Claude, j'étais assez copain avec lui, on avait un bon rapport. Je lui dis, en plus, personne ne m'applaudit jamais. Il me dit, je vais te donner un truc. Alors j'ai dit, mais quoi? Il me dit, écoute, au moment où tu franchis la porte, on ne voit plus que tes épaules, tu fais... Et tu vas voir, tu vas être applaudi. Et une fois sur trois, j'étais applaudi.
Ça, c'est un truc que j'ai vu aussi à Bercy. Quelqu'un lançait les applaudissements tout seul, 10 000 personnes qui derrière reprennent.
Et ben voilà.
Ça marche toujours.
Et mes jeunes comédiens de la pièce me disaient, mais écoute, t'es pas très bon, t'as qu'une scène, mais comment ça se fait? Et je n'ai jamais dit, parce que je l'avais promis à Claude, depuis je l'ai raconté, la preuve. J'ai dit à Claude, excuse-moi, pendant la durée de la pièce, je ne le raconterai pas.
Alors, La bouteille à l'encre est oubliée, mais il y a une autre pièce d'Albert Husson qui est très célèbre, c'est Adieu Berthe. Il l'a vu un jour jouer par Francis Blanche et il ne l'a pas reconnu parce que Francis Blanche avait remis sa patte, réécrit la pièce. Ça a été un immense succès avec Francis Blanche oubliant une scène et improvisant pendant une demi-heure. C'est un classique du genre.
Ah bon, ouais. Je ne me souviens pas de ça, mais Adieu Berthe, comme Jean Lefebvre qui fait un numéro.
Oui, mais Jean Lefebvre, c'est différent. Lui, il n'apprenait pas ses textes et il jetait aux spectateurs des coussins qu'il lui renvoyait sur scène.
D'accord.
Et c'était au Théâtre des Nouveautés où vous avez joué aussi Ma femme est parfaite, je crois.
Absolument.
De Jean Barbier.
De Jean Barbier, absolument.
Qui est mort l'année dernière, centenaire.
Il est mort ?
Il est mort à 100 ans l'année dernière, oui.
Ah ben vous me le promettez,
ouais. Et c'était un monsieur qui avait hérité d'auto-école et qui s'était payé, qui écrivait ses pièces, qui n'avait pas de succès, mais peu importe. Parce qu'il
Il y en avait certaines qui avaient du succès. Ouais. Non, il y en avait certaines. Mais il avait son théâtre, Les Nouveautés, à l'époque, avec sa femme, qui j'espère est toujours de ce monde.
Oui, Denise Moreau, Chantegris. Et il y avait d'autres pièces, Panier de crabe, Jamais 200 toi, vous avez joué dans finalement pas mal de pièces.
Oui, j'ai enchaîné beaucoup, j'ai en tourné beaucoup, et voilà, avec des rôles.
Beaucoup plus en tournée qu'à Paris.
Oui. Mais les tournées, j'adore ça, moi, j'adore l'esprit de troupe, ça dépend des partenaires qu'on a, mais j'ai eu la chance de la plupart du temps de m'entendre très bien avec mes partenaires. Et puis ça fait découvrir la France, j'aime bien les voyages, en bagnole, on déconne, on se fait des niches, j'adore les tournées. Donc j'ai fait des grosses tournées pendant tous les deux ans pratiquement.
Et dernier carton pourrait partir en tournée après le gymnase.
Oh, bien sûr, j'espère bien que ça partira.
Alors il y a eu aussi à la télévision ce que Olivier Mine a mis en scène, c'est-à-dire Un fil à la patte et trois jeunes filles nues avec tous les animateurs de la télévision.
Il l'a pas mis en scène, il l'a produit.
Oui.
Les mises en scène c'était Francis Perrin, oui. Et voilà. Mais ça aussi c'était magnifique parce que là on travaillait dans des conditions luxueuses, avec des magnifiques décors, des magnifiques costumes, un très long temps de répétition. Non, j'ai joué Rigois dans Le fil à la patte, par exemple, c'était un magnifique rôle. Non, il m'a donné des très beaux rôles, Olivier.
Oui, et puis, il y a eu quand même Feydeau avec L'hôtel du libre-échange, Mariage pluvieux, Mariage heureux.
Voilà,
ce sont des pièces que vous avez jouées toujours en tournée, pour le plaisir.
Et jamais
Non,
ce que vous voulez dire, c'est que c'était pour Olivier aussi, pour la télé.
Le Mariage pluvieux, Mariage heureux, non, c'était pas pour la télé.
Ça c'était en tournée.
Voilà,
en tournée.
Mais vous aimez bien, encore une fois, ça pourrait se monter à Paris, ça, vous n'avez jamais eu envie ou...
Bah, c'est pas moi qui décide, c'est le producteur, hein, je veux dire. Donc, on part d'abord en tournée, soi-disant, on fait en tournée, puis après, alors, de temps en temps... Ah oui, ça va jouer à Paris, puis finalement ça se fait pas. Oh, voilà.
Et puis il y a eu cette pièce, Dernier tour de piste avec Jean-Marie Bigard.
Énorme succès.
Comment vous êtes retrouvé à jouer avec Jean-Marie Bigard, Patrice Lafont?
Bah, c'est le même producteur que celui de la pièce que j'avais jouée avant, qui était encore une sorte de déménageur. C'était. Tout d'un coup, le titre m'échappe, mais. Et le même producteur, et il y avait un personnage qui devait être distribué, puis il l'a pas fait. Tout d'un coup, le producteur m'a dit, écoute, viens le faire. Bon, j'ai dit, oh, ça m'intéresse pas trop. Je connaissais Jean-Marie, hein, j'adore, on joue à la pétanque ensemble. C'est un personnage qu'il faut découvrir. C'est pas du tout le personnage que la plupart... L'idée que se fait de Jean-Marie Bigard, le public, c'est absolument pas ça. Donc j'y suis allé, et je l'ai pas regretté, parce que non seulement on s'est vraiment marré, et en plus, le personnage que j'ai joué était très intéressant à faire. Ça. Contrairement à Jean-Marie, qui est tout en force, tout en démonstration, moi j'ai un personnage complètement en nuance, un vieil homosexuel timide, tout comme ça. Et j'ai adoré jouer ce personnage. Et la pièce était vraiment un énorme carton. On va d'ailleurs la reprendre normalement à Paris à partir de l'été prochain et après à nouveau en tournée.
Merci Patrice Lafont.
Merci Jacques.
Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.